7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture en Afrique, une affaire de femmes, avec un grand point d'interrogation. Une certitude, les femmes contribuent largement au secteur agricole sur le continent et jouent un rôle essentiel dans le développement de la sécurité alimentaire. Dans certains pays africains, elles représentent 60% de la main-d'œuvre agricole et pourtant, elles bénéficient rarement des mêmes droits que les hommes. Le manque d'accès à la propriété des terres, au crédit, aux nouvelles technologies ou à la formation qui freine la productivité des femmes, alors que leur contribution pourrait représenter un formidable levier de développement économique si elles étaient l'égale des hommes. Les femmes agricultrices en Afrique augmentent les rendements des exploitations agricoles de 20 à 30%. Elles pourraient augmenter ces rendements si elles avaient le même accès que les hommes aux ressources productives. Alors, comment placer ces femmes au centre de l'agriculture africaine? C'est la question qu'on vous pose, bien évidemment, à vous les voisins et les voisines, et surtout aussi à nos invités. Dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir notre spécialiste maison. Bonjour Sayoba Traoré.
Bonjour Emmanuel.
Vous présentez l'émission Le Coq Chanque, diffusée sur RFI tous les dimanches à 16h10, temps universel.
Il y a plusieurs diffusions suivant les réseaux, mais bon, on m'a expliqué.
On vous réécoute en podcast, évidemment.
C'est-à-dire qu'on m'a expliqué, mais j'ai oublié dans la seconde qui suit.
On est en ligne aussi avec la FAO, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. Bonjour Tako Ndiaye.
Oui, bonjour Emmanuel, vous allez bien?
Très bien, merci d'être avec nous. Vous êtes à Rome, au siège de la FAO, et vous êtes spécialiste des femmes dans l'agriculture. Également avec nous, une femme agricultrice et puissante, Nyakategundo Kamisoko, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes présidente de la Fédération des femmes rurales du Mali à Bamako. Vous-même, vous êtes agricultrice et éleveuse et présidente d'une coopérative de femmes dans la région de Kaye. Vous pouvez nous dire juste en deux mots, Nyakategundo Kamisoko, qu'est-ce que vous produisez également là, si je vous demande de me faire la liste très rapidement?
Merci Emmanuel d'avoir m'invité à cette émission. Et aussi, merci à Sayoba Traoré d'avoir m'invité à cette émission. Et je remercie aussi Tako de la FAO. Et moi, je suis agricultrice avec grand temps et je produis et je fais l'élevage aussi. Actuellement, nous sommes des femmes qui se sont regroupées au niveau des villages de Somankilikura. Nous produisons beaucoup de la banane et nous produisons aussi des oignons et nous produisons aussi des légumes. Et nous produisons aussi la semence aussi, pour les violets de galets.
De la semence que vous revendez même au Sénégal, lors du maraîchage, de l'élevage. Une grande diversité, c'est peut-être ça aussi le mode d'emploi. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait. On entendra aussi des reportages au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et quant à vous, les voisins, les voisines, dites-nous si vous avez une parcelle familiale, même si vous habitez en ville, si vous avez une parcelle familiale que vous sentez concernée par le sujet, dites-nous quelles sont les solutions pour replacer les femmes au centre de l'agriculture africaine au 33 7 64 45 51 41. C'est notre compte WhatsApp. Je vous rappelle le numéro 33 7 64 45 51 41. Et bien sûr, vous nous suivez aussi sur Twitter en direct et sur les réseaux sociaux, des messages. Allez, que je vous livre en vrac, Sayoba, vous avez le droit de commenter. Donald au Bénin, il faut reconnaître que le monopole du marché agricole est détenu par les hommes, pas seulement en Afrique. C'est vrai, pas seulement en Afrique, puisque moins de 20% des propriétaires terriens dans le monde sont des femmes. Un voisin est un N'Djamena Kungar. C'est un problème réel ici au Tchad parce que les terres appartiennent aux hommes par héritage. Les femmes louent leurs terres en général davantage qu'elles ne possèdent. Et celles qui obtiennent des terres, c'est parce que dans certaines familles, elles s'imposent et elles obtiennent des portions de terre. On va y revenir au foncier Sayoba Traoré parce que c'est quand même l'un des premiers problèmes. On va y revenir dans quelques instants.
C'est une question centrale puisque la terre c'est le premier élément de l'agriculture.
Et oui, comment cultiver si on n'a pas de terre? Et ça vous place toujours dans une situation de fragilité si on n'est pas sûr de conserver sa terre. Idounou est à Nouakchott en Mauritanie. Chez nous, les femmes sont absentes du secteur agricole par paresse uniquement. Elles ne sont pas comme les consœurs européennes et américaines, elles préfèrent le commerce et l'entrepreneuriat. Je ne sais pas d'où il sort cette idée, Idounou, à Nouakchott?
Ben, c'est que la Mauritanie aussi, il faut dire que l'agriculture en Mauritanie, c'est pas évident. Il n'y a que la région du fleuve Sénégal. Sortie de là, il y a des grandes étendues du territoire où on ne peut cultiver que dans les oasis. Ou s'il n'y a pas un puits pastoral, vous avez des régions qui ont 150 mm de pluie par an. Qu'est-ce que vous faites avec ça?
Également, on va aussi partir en reportage au Cameroun, chez une éleveuse de poulets. C'est pas une paresseuse, hein. Elle est éleveuse depuis plus de 20 ans. Agnès Koa, âgée d'une soixantaine d'années. Elle est partie de presque rien. Elle gère maintenant un poulailler de près de 10 000 volailles. Et elle est parvenue à créer sa marque Poulenkom Damba, du nom de son village qui est situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Yaoundé. Agnès Koa livre ses poulets dans les grandes surfaces de la capitale camerounaise. Notre reporter Fabien Essiane a rencontré cette reine du poulet. Le poulet qui est, je vous le précise, hein, c'est la viande la plus consommée au monde.
Je mange le poulet beaucoup dans les fêtes, surtout. Le poulet de chair. S'il y a des, c'est le poulet. S'il y a le mariage, le poulet toujours. Les premières communions, les ans, c'est le poulet toujours. Même dans les réceptions, si tu pars à table, tu vas trouver que c'est le poulet que les gens consomment rapidement avant le reste du repas. C'est en 1997 que je me suis plongée en élevage. Et en faisant cet élevage, j'ai vu qu'en cultivant, l'élevage est rentable. Ça me permet de nourrir mes enfants, de les payer la scolarité facilement. Et ces poulets me permettent de vivre mieux. J'ai commencé avec un nombre de 200 et petit à petit ça évolue parce que les bénéfices que j'avais eu me permettaient d'augmenter le nombre. Chaque jour, moi je m'en vais au champ après avoir travaillé au poulailler le matin, tous les jours, sauf si je suis malade. C'est là que je mène ma vie. La vie de mes enfants, c'est le champ. Je vais replanter le maïs ici la saison prochaine. Donc, il ne faut pas que les herbes s'y grandissent beaucoup. C'est le maïs que je fabrique la provende avec. Parce que quand ça va mûrir, j'apporte ça au village. Je sèche alors ça au soleil. Après avoir séché, là, je fabrique alors la provende avec. Et les poulets ne peuvent pas grandir s'il n'y a pas le maïs. Après 45 jours, ça ne dure même pas. Moi, je commence à livrer mon poulet. Quand je vois que c'est déjà en terme, ce que je fais, c'est d'appeler le revendeur au téléphone. Et le revendeur descend. S'il voit que le poulet est prêt, il vient le matin avec son véhicule. Il prend le nombre qu'il veut, 100 ou 200. Il monte avec ça. Dès qu'il finit, il revient. Je ne pars pas au marché pour aller revendre parce que je ne peux pas avoir ce temps-là.
Comment est-ce que vous avez pu réunir les moyens nécessaires pour financer ce projet?
Quand j'ai commencé à faire mon élevage, tu sais que pour épargner l'argent, c'est un peu difficile. Je me suis donc plongée à faire des petites tontines au village. J'ai des projets, c'est seulement que les moyens sont bas. Si on me subventionne maintenant, je veux essayer aussi de faire l'élevage. Tu sais que l'être humain, il y a des moments qu'il se fatigue.
Si l'on vous demandait de donner quelques conseils aux femmes d'Afrique qui vous écoutent, que pouvez-vous leur dire?
Tout ce que l'être humain fait vient d'abord, premièrement, du rêve, deuxièmement, de la volonté. C'est ça qui me permet même d'avoir le goût.
C'est la Provence qui sort là. C'est la Provence. La nourriture des poulets, ça sort déjà, c'est déjà composé.
Reportage de Fabien Essiane sur les poulets Nkom Damba de Madame Agnès Koa. Et bien sûr, vous pouvez réagir. Comment placer les femmes au centre des agricultures en Afrique? Vos appels au 33 7 64 45 51 41. Ntako Ndiaye de la FAO, vous avez entendu le reportage. Est-ce qu'on peut rapidement redire à nos auditeurs qui, si par hasard ils l'ignoraient, quel est le rôle central des femmes dans la production, dans la distribution des produits agricoles en Afrique à l'heure actuelle?
Oui, merci Emmanuel. Je suis vraiment ravie de participer à cette émission et je pense que les témoignages de Nyakate Goundé et de Agnès Koa nous montrent vraiment que les femmes nourrissent l'Afrique. Les femmes nourrissent l'Afrique et il me semble que L'autonomisation des femmes dans l'agriculture est un des meilleurs remèdes contre la faim, la malnutrition et la pauvreté en Afrique. Donc, je pense que le rôle des femmes dans l'agriculture, il faudrait le voir non seulement dans la production, mais aussi dans la mise en valeur, la commercialisation, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Et il faudrait vraiment pouvoir soutenir l'autonomisation des femmes à travers tous les maillons de la chaîne. Mmh. Mmh. De la production vers l'assiette.
C'est ça, de la production.
Nous savons par contre que les disparités sont importantes et ces disparités, elles mettent en péril la contribution optimale des femmes dans l'agriculture et la chaîne des valeurs, mais aussi le retrait de bénéfices de leurs activités commerciales.
Alors, vous le disiez, Takondiaï, de la production à l'assiette, si on parle de la production, pour reprendre l'exemple de cette éleveuse de poulets, elle-même, elle produit du grain, du maïs, hein, pour ses poulets. Il faut bien avoir donc quelques parcelles. Un problème important, c'est l'accès à la terre, Sayouba Traoré, pour les femmes.
Il n'y a pas que ça, mais bon, c'est le problème central, comme on a dit au début. Parce que quand vous êtes femme dans ce milieu, il y a ce que dit la loi moderne et la réalité sur le terrain. Dans de nombreux villages, l'individuation déjà n'existe pas. Un homme ne peut pas dire « je ». On parle au nom du clan. Donc la propriété, la terre est une propriété du clan ou en tout cas de la famille.
Familiale.
Ou en tout cas un lignage patrilinéaire. Donc si on cédait une portion de terre à une femme, le risque c'est qu'elle apporte ça dans la famille de son mari. Et alors que la terre, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Beaucoup de conflits en Afrique trouvent leur explication dans la possession de la terre, ou en tout cas dans l'usurpation des terres, ou dans l'accaparement des terres. Mmh. Et vous avez des terres, ce qu'on appelle les terres mitoyennes, par exemple des terres entre deux villages, et ça peut être très dangereux. Vous avez des terres entre deux champs, une jachère, ça peut conduire à des conflits.
Ceci dit, d'un pays à l'autre, je m'adresse à vous, Takondiaï, il y a quand même de grosses différences. Si on prend comme exemple le Mali, on a 78% des femmes qui vivent en milieu rural, qui assurent plus de 70% de la production alimentaire. Et on n'a que 14% des parcelles agricoles qui appartiennent aux femmes. Tout le reste, donc l'immense majorité, c'est aux hommes. Mais ce n'est pas le cas partout. On n'a pas ces mêmes disparités avec ces mêmes proportions partout, Takondiaï.
Oui, tout à fait. Les droits fonciers, il faut les voir de diverses manières. Il y a les droits liés à l'héritage, le droit de posséder, le droit de transférer, de vendre ou d'acquérir la terre. Donc, dans les pays, les régimes sont assez différents. Et je dirais qu'au niveau, par exemple, de la proportion de femmes et d'hommes propriétaires fonciers, il y a de grosses disparités entre les pays. Il y a des pays où nous avons 5%, comme le Niger, 5% de femmes qui sont propriétaires foncières par rapport à 95% d'hommes propriétaires. Et nous avons des pays comme l'Éthiopie où on se rapproche des 50%. Par contre, là où il y a des disparités énormes, en plus de la proportion des femmes parmi les propriétaires fonciers, c'est au niveau de la surface de terre qui est contrôlée par les femmes et celle qui est contrôlée par les hommes. Nous savons, par exemple, que les femmes contrôlent vraiment de petites surfaces de terre comparées aux hommes. Nous voyons au Niger, par exemple, 9% des terres sont contrôlées par les femmes, 70% par les 62% par les hommes et 29% de façon conjointe. Donc les disparités, il faut les voir aussi bien en termes d'accès à un titre foncier, mais aussi en termes de proportion de terres que les femmes contrôlent,
oui,
mais aussi de qualité de ces terres.
Oui,
nous savons que les femmes, par exemple, travaillent sur les terres de moins bonne qualité que celles qui sont allouées aux hommes.
Notamment moins bien irriguées, etc. Et évidemment, plus on a une petite parcelle, moins on gagne et plus c'est compliqué ensuite de de moderniser, de mécaniser. Comment a fait l'Éthiopie pour arriver à une quasi-parité, en tout cas, d'accès à la propriété, même s'il y a des différences de taille d'exploitation?
Disons qu'il y a des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, l'Ouganda, qui ont un peu des systèmes d'enregistrement conjoint des terres par les deux époux. Donc, dans ces pays-là, si la terre appartient à l'homme, elle appartient à la femme. Et c'est de cette façon que ces pays sont arrivés à un peu plus rééquilibrer le déficit en termes de propriété foncière des femmes.
Sayouba Traoré.
Les disparités, ce n'est pas seulement entre pays. Dans un même pays, vous avez des disparités. Je prends un exemple, par exemple, mon pays, le Burkina Faso. Vous avez 63 ethnies. Vous avez des ethnies qui sont patrilinéaires, c'est-à-dire que c'est les hommes qui décident. Vous avez des ethnies qui sont matrilinéaires, c'est-à-dire que la chef du village, c'est une femme. C'est la femme qui dirige à la maison. Et si on porte le nom de sa maman, et la législation n'est pas la même. Voilà. Il y a beaucoup de disparités. Il y a des endroits où le droit foncier traditionnel appartient aux femmes.
Alors justement, on va prendre le cas du Mali. On est bien en ligne avec Niakate Gouné Kamisoko. Vous êtes donc malienne. Vous nous disiez donc tout à l'heure que vous avez commencé par vous fédérer en coopérative dans la région de Kaï. Aujourd'hui, vous êtes la présidente des femmes rurales du Mali. Est-ce que l'accès à la terre pour les femmes, ça a été déterminant dans la façon de vous fédérer?
Merci d'avoir me posé cette question. Effectivement, comme vous avez si bien dit, au Mali, il y a une loi qui a été votée par les députés à l'Assemblée nationale du Mali, mais les 15% de terres aménagées seront attribuées aux femmes, aux jeunes et personnes vulnérables. Mais le problème qui se pose, la loi n'a jamais été respectée. Parce qu'on a dit que les zones, par exemple, le plus du Niger, il y a d'autres zones que l'État va aménager. Donc après l'aménagement, maintenant, les 15% des terres aménagées sera partagées entre les jeunes et les femmes et les personnes vulnérables. Mais ça n'a jamais été respecté. Actuellement, nous-mêmes, on a ce problème. Chaque réunion avec les responsables, on parle de ce problème là tout le temps. J'ai dit
pourquoi la loi n'est pas appliquée, Niakate Gundo Kamisoko?
Non, parce qu'aujourd'hui, c'est général, comme vous avez si bien dit, c'est général partout. La terre n'appartient pas aux femmes. La terre appartient toujours aux hommes. Mais cette loi a été demandée. Les femmes, ils ont insisté à faire une demande. Chaque fois pendant nos fêtes de la journée internationale des femmes, la journée de l'alimentation, oui. On pose ce problème-là.
Oui, mais évidemment, une seule journée, ça ne suffit pas. On va donner la parole à une auditrice, hein, puisque j'ai redonné le numéro de notre compte WhatsApp pour nous appeler. 33 7 64 45 51 41. On est en ligne aveugle avec Halima qui nous appelle du sud du Tchad. Bonjour Halima. Halima, pardon.
Bonjour Manuela.
Bonjour Halima, bienvenue chez 7 milliards de voisins. Vous dites que ça n'est pas forcément impossible d'avoir de la terre. Vous vous êtes mis à plusieurs, à Doba, hein, dans le sud du Tchad, pour acheter de la terre. Comment vous avez fait? Expliquez-nous en quelques mots, Halima.
Oui, au Tchad et précisément au sud, les femmes n'ont pas accès personnellement au terrain agricole.
Oui.
Donc, les femmes s'organisent en groupement pour acheter des terrains et cultiver.
Donc, ça veut dire que vous vous êtes organisée avec une trentaine de femmes, c'est ça? Et vous avez acheté un terrain il y a 4 ans?
Oui, on s'est organisé un groupement de 30 femmes et pour acheter un terrain. Et on a cultivé le terrain par rapport aux récoltes de ce terrain que nous, les femmes, après ça, on se partage pour chacun cherche son terrain personnel.
Comment vous avez financé l'achat du terrain?
On a commencé à financer l'achat du terrain en louant un terrain pour labourer et les récoltes qu'on a achetées pour acheter notre terrain personnel.
D'accord. Et avec ça, vous avez emprunté à une tontine ou vous avez créé une tontine?
Oui, c'est dans le groupement qu'on a organisé, ouais. Une cantine.
Avec le produit des récoltes, hein, donc c'est bien ça.
Voilà, le produit des récoltes. Et pour dire, on a acheté, on s'est partagé l'argent et chacun s'organise de sa manière pour organiser une cantine dans le groupement.
Le terrain, il fait quelle taille, le terrain à Limé, ce terrain réparti pour une trentaine de femmes?
Oui, c'est un champ. C'est un champ grand et grand champ.
C'est combien d'hectares?
C'est 2 hectares.
D'accord.
10 hectares?
Non, 2.
Oui, 2.
Donc dessus, vous faites du maraîchage?
Oui, donc c'est dû à ces 2 hectares que nous, on laboure et à la fin de récolte, on achète le produit et on se partage l'argent et dans la caisse.
C'est
à
ça.
La fin de l'année, on se partage aussi.
Le produit des récoltes, comment vous êtes considéré autour de vous par les autorités, par les hommes à Limé?
Oui, on a constitué des papiers. Donc, notre groupement est reconnu par les autorités locales.
Et vous avez bien un titre de propriété?
De propriété?
Oui.
Vous avez les papiers du terrain?
Oui.
Oui, c'est pas simple. Hein. En tout cas, merci Alimé de nous avoir appelé. Alors, comment placer les femmes au centre des agricultures africaines? Sayouba, peut-être vous voulez apporter un commentaire par rapport à ce qu'on a entendu, à ce que nous a dit aussi la présidente de la Fédération des femmes rurales du Mali, qui nous disait qu'il y avait bien une loi, qu'elle n'était pas appliquée.
Ben, d'abord, au début, organiser ces femmes, parce que chacune est isolée dans son coin. Et si vous avez vu, que ce soit au Tchad, quel que soit l'exemple qu'on vous a donné, au début, il y a eu d'abord une organisation. Parce que quand elles sont ensemble, déjà, on se donne plus de courage. Et je vous assure que sortir de siècles de servitude, on vous a mis des choses dans la tête pendant des siècles, vous devez être soumise. Oser, déjà, c'est compliqué. Et celle qui disait qu'au début, il y a le rêve et après, il y a la volonté, c'est vrai. Elle a raison. Parce que oser entreprendre, c'est déjà compliqué. Mais quand on est ensemble, déjà, les autorités, bon, essayent de ne pas faire n'importe quoi avec vous. On ne peut pas faire semblant de vous ignorer. Un groupement de 30 femmes qui débarquent dans votre bureau, Emmanuel, vous ne pouvez pas faire semblant
quand
de
on
ne
est
pas...
élu local, oui,
vous
chef
pouvez
coutumier.
Pas faire semblant de ne pas les voir. Au début, il y a l'organisation. Après, il y a la formation. Et il y a le microcrédit. Et comme ces femmes sont ingénieuses, elles sont reparties chercher d'abord la tontine, qui est un microcrédit au niveau traditionnel qu'elles ont modernisé. Et je vous assure qu'il y en a qui ont des banques aujourd'hui, et sur la base de microcrédit.
Alors justement, on va en parler du financement. Comment placer les femmes au centre des agricultures africaines, les voisins, les voisines? On attend vos témoignages, vos propositions aussi. Il y a l'accès à la terre, on en a parlé. On va parler de l'accès aux banques, au crédit, au microcrédit. Il manque peut-être aussi un crédit intermédiaire. À la formation aussi, aux outils agricoles pour augmenter la productivité, parce que ça aussi, c'est quand même le nerf de l'agriculture en Afrique. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Bella Dala, atemeto komate dodama, nema somaja oma berma fleka ya la kata agana. Yo, nyamunkila, mui mantengi tegerena, ndesita la ndesita nyawana neko nafigi ya bemunde.
try. Na figia kama bi make a fly. I bet I don't need a fire fly. I bet I don't need a fire fly. I know my daily cause I'm gonna die.
La rappeuse malienne Amiye Rewolo, je gère chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI avec notre ami et voisin Sayouba Traoré, le présentateur du Coq Chante, parce qu'évidemment on parle des femmes et de l'agriculture en Afrique aujourd'hui, avec également Takondiaï de la FAO et une agricultrice et présidente de la Fédération des femmes rurales du Mali, Niakate Gundo Kamisoko. Et aujourd'hui, évidemment, on évoque le problème de l'accès à la terre. On entendait cette auditrice qui nous disait comment elle s'était mise à plusieurs dans le sud du Tchad pour parvenir à acheter un modeste terrain de 2 hectares. Niakate Gundo Kamisoko, vous, l'État vous a laissé 60 hectares pour la coopérative dans la région de Kaï, ou est-ce que je me trompe ? Niakate Gundo Kamisoko, est-ce qu'elle est en ligne avec nous ? Allô, allô.
Oui, je suis en ligne.
Oui, Madame Kamisoko, j'étais en train de vous demander, l'État vous a laissé des terres pour la coopérative ou au niveau de la Fédération des femmes rurales du Mali ?
Non, c'est pour la coopérative. La coopérative, ce sont les immigrés sortants qui ont abandonné l'immigration pour venir s'installer au Mali. En ce moment, il y avait 4 nationalités, guinéens, maliens, sénégalais, burkinabés. Donc, ils ont envoyé chaque lettre à chaque président. Ils ont dit que le président qui sera le premier à les répondre, ils vont aller s'installer là-bas. En ce moment, il y avait le président Moussa Traoré qui était le président de la République du Mali. C'est lui qui a répondu la lettre à la première. Donc, en ce temps, il y avait le gouverneur Amara Dampa qui était installé à Kaï comme gouverneur de Kaï. C'est le gouverneur qui nous a donné la terre au nom de l'État, 60 hectares. Nos maris étaient 14. Actuellement, nous sommes à 16 femmes dans la coopérative. Nous, on a 5 hectares.
D'accord. Et ça veut dire que vous avez un titre de propriété ou c'est un droit de jouissance, ou quel est le statut de cette terre ?
Non, c'est pour nous, c'est les hommes qui nous ont donné, parce que l'État les a donné les 60 hectares et il nous a donné 5 hectares. Donc nous, on a une lettre d'attribution, le président de la coopérative, le chef du village, et en même temps, on a même un titre provisoire actuellement, même un titre foncier, ça est en cours. Donc pour nous, en tout cas, le cas de Soumankili, nous, on n'a pas de problème. Mais ce n'est pas général.
Oui, ce n'est pas général, bien sûr.
C'est pas général. C'est un cas exceptionnel, quoi.
Oui.
Donc ce n'est pas partout.
Parce que la coopérative est particulièrement active, en fait. Hein.
Oui, ils sont actifs. Comme ils ont tous résidé, ils étaient en France. Ils sont compréhensibles aussi. Mm. Parce qu'au début, on a travaillé avec les hommes au champ. Mais c'est après qu'à notre demande, nous, on a demandé à notre tour de nous donner une partie de la terre. Nous, on va créer notre association à notre tour qui est nommée Tunante Dambetu. La coopérative a donné le nom. On est contre l'immigration. Les femmes nous ont donné ce même nom. Donc nous, on a 5 hectares. Les hommes ont le reste des terres. Actuellement, il y a eu des décès. Ils sont au nombre de 7 personnes.
Il faut qu'on parle aussi de l'accès au financement, de l'accès au crédit, parce que les banques écoutent rarement les femmes agricultrices, sauf si elles sont puissantes, regroupées au sein de fédérations, Sayouba Traoré. Parce qu'il y a toujours, ce que disent les banques, la gestion du risque.
Ben oui, puisque le banquier va vous demander une garantie. Qu'est-ce qu'un paysan en Afrique peut offrir comme garantie ? C'est sa terre. Et si vous êtes femme et que vous ne pouvez pas être propriétaire terrien, donc vous n'avez pas de garantie à offrir. Il faut ajouter que le banquier ne sait pas s'adresser au monde paysan, et le monde paysan ne sait pas comment fonctionne une banque. Donc il faut une structure intermédiaire, et là où il y a des ONG qui interviennent, ou des fédérations de femmes comme la FENAFER qui interviennent, et ça peut débloquer la situation au niveau des banques. Ou alors, s'il y a un agent de l'État, parce qu'il y a des directions départementales de l'agriculture quelque part dans presque toutes les localités, si une structure de l'État, par exemple, s'offre comme garantie, et ça peut marcher. Mais un groupe de femmes qui débarquent dans votre bureau veulent un prêt alors qu'elles ne peuvent pas offrir de garantie. La seule garantie qu'elles ont, c'est leur force de travail. Je connais pas un banquier qui va penser à ça. Heureusement qu'il y a des structures de microcrédit qui se sont créées, à l'image de ce que a fait le prix Nobel Younous. Alors, ce genre de microcrédit, en fait, a prospéré très, très rapidement parce que dès que les paysans ont compris comment ça fonctionne, vous avez des banques de microcrédit un peu partout. Et évidemment, la tontine.
Et avec des taux d'intérêt élevés, hein, il faut le préciser, pour le microcrédit. Et puis, évidemment, un plafond. Hein, les sommes empruntées sont assez plafonnées. Tako Ndiaye, Sayouba Traoré évoquait très justement, dans certains pays où il y a de réelles politiques agricoles, avec l'État qui se porte garant. Est-ce que c'est une situation qui progresse, ça, ou pas tellement?
Bon, disons que, en général, pour l'inclusion financière des femmes dans les chaînes de valeur, les démarches structurantes autour des coopératives, des unions de productrices, etc., donnent beaucoup plus de succès en termes de garantie au niveau des institutions financières, mais également en termes d'approche des leaders au niveau local pour l'attribution des terres qui permettent de montrer à la banque que nous avons les terres pour cultiver.
Mais ce n'est pas que pour l'achat des terres. Hein. Mais si je vous comprends bien, Tako Ndiaye, si je vous comprends bien, en langue de tous les jours, hein, parce que vous nous parlez d'inclusion financière des femmes, et en langue de tous les jours, vous nous dites que quand les femmes s'organisent elles-mêmes, c'est plus efficace que quand on compte sur une politique agricole possible.
Il faut aussi savoir que l'émergence de la téléphonie mobile ces années dans nos pays ouvrent beaucoup de perspectives en matière de transfert d'argent, etc., qui font que c'est beaucoup plus facile de nos jours de transférer de l'argent que c'était dans le passé.
Donc, c'est le rôle des diasporas, hein, Sayouba Traoré, ça.
Mais tout à fait, parce que la difficulté qu'on avait avant, c'est que vous devez envoyer de l'argent à quelqu'un. Une femme reçoit, par exemple, un mandat. Bon, avant que tout ça, ça change par la technologie moderne, il fallait envoyer un mandat, la femme reçoit le courrier. Mais il faut qu'elle aille voir celui qui s'élie pour l'accompagner et retirer cet argent. D'où des trucages possibles. Et si le mari est au courant, il peut s'approprier cet argent. Alors qu'aujourd'hui...
Avec le mobile banking, on a des femmes, même si elles ne savent ni lire ni écrire, elles savent recevoir de l'argent sur un téléphone portable.
Ah ben surtout qu'elles ont des jeunes filles qui sont très très calées dans ces matières-là, et plus que leur papa qui sont de la vieille école, et il y a beaucoup d'hommes dans les villages en Afrique qui savent même pas qu'Internet ça existe, et même dans certains quartiers de la ville. Donc ces femmes ont des filles, des jeunes filles aujourd'hui, qui maîtrisent très, très bien cette technologie-là. Donc ça affranchit quelque part, il y a un léger mieux de ce côté, au niveau de la sécurité même du transfert d'argent.
Vous avez parlé de la formation, du fait que les femmes sont dans l'agriculture, ont rarement dépassé l'école primaire, voire n'ont pas terminé, n'ont pas achevé le cycle primaire, ont des difficultés à lire et à écrire, voire ne savent pas lire et écrire. Hein. Je décris une situation réelle, Sayouba Traoré. Là.
Ben, tout à fait. Et dans la mesure où l'idée, moi, me l'a dit à plusieurs reprises, si vous scolarisez un garçon, il reste à la maison. Si vous scolarisez une femme, elle va aller enrichir la famille de son mari. On me l'a dit en face. Hein, la personne n'a pas pris de gants. Alors, le résultat, c'est que vous allez apporter un document ou un texte de loi, comme dit Mme Kamisoko, voté à l'Assemblée. Mais rares sont les femmes dans l'assistance qui peuvent le lire, parce que d'abord c'est en français, elles n'ont pas été scolarisées. Heureusement qu'il y a des structures intermédiaires aujourd'hui qui sillonnent les villages, expliquent les choses à ces femmes dans leur langue maternelle.
Alors, on parlait de l'importance de la formation et du financement, pas seulement pour l'achat de terres, hein, mais aussi pour l'achat de matériel, pour l'achat d'entrants, pour comprendre les modes d'emploi, pour moderniser un petit peu l'agriculture avec des outils plus simples, plus performants aussi, du petit outillage. Hein, ça peut être. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle, qui est professeur d'agriculture à l'université de Saint-Louis du Sénégal. Bonjour Amadou Ndiaye. Est-ce qu'il est bien en ligne avec nous, notre voisin à Saint-Louis? Nous l'avions en ligne, il est professeur d'agriculture. Je voudrais préciser d'ailleurs, peut-être on essaye de le rappeler pour essayer de le joindre. Il a souhaité témoigner dans cette émission parce que c'est vrai que si on regarde les chiffres, Sayouba Traoré, 62% des femmes en Afrique travaillent dans l'agriculture et pourtant elles ne représentent que 22% des agronomes. Or l'agriculture en Afrique a besoin aussi d'agronomes.
Eh ben, on a surtout besoin d'agronomes dans la mesure où les anciennes connaissances qu'on avait, on les perd progressivement et il n'y a plus de personnel pour aller divulguer les connaissances modernes dans les villages.
Et avec le changement climatique, ça se complique encore
plus.
Oui,
et le programme d'ajustement structurel est passé par là. Oui. Vous avez le changement climatique qui fait baisser les rendements, dégrade l'environnement. Et un autre problème dont on ne parle pas, mais c'est la pression démographique qui augmente. Parce qu'avant, vous aviez un hectare pour nourrir quoi, 4, 5, 6 personnes. Aujourd'hui, un hectare, vous devez nourrir 20 personnes là-dessus.
Ouais, il faut préciser que si on prend les pays du Sahel, la population devrait doubler d'ici 2040. Et si en plus on prend le cas de l'urbanisation, on sera à 56% de personnes, de population dans les villes. Comment on va nourrir toutes ces personnes à partir de l'agriculture du continent. Donc la modernisation, le changement de l'agriculture est déterminante.
Oui, et pas seulement la modernisation, parce qu'il faut trouver un équilibre. Comment produire pour nourrir tous ces gens-là? Comment augmenter les rendements des champs sans dégrader l'environnement, c'est-à-dire sans produits chimiques.
Oui, et sans dégrader les sols, voilà. Avec de trop grosses machines, parce que ce sont des sols, notamment dans le Sahel, qui sont des sols assez fragiles, hein, finalement.
Oui, et c'est là où les femmes interviennent, parce qu'il y a des vieilles connaissances techniques qui refont surface, c'est-à-dire c'est l'utilisation des légumineuses pour fertiliser les sols en carbone, par exemple. Oui. Et avant, quand on était petit dans les années 60, moi, quand j'accompagnais ma grand-mère au champ, je voyais du maïs, et en bas, il y avait du niébé ou de l'arachide et tout ça. Nous avons banni tout ça, on a fait de la monoculture, et le résultat, on l'a vu. Et donc, on en revient de plus en plus à ces choses-là, parce que le maraîchage, c'est traditionnellement l'affaire des femmes.
Mm-hmm. Alors, pourquoi et la monoculture, c'est plutôt une culture de rente qui rapporte plus d'argent et qui est plutôt une affaire d'hommes, hein, d'ailleurs.
Pas seulement l'argent, parce que, comment le travail est organisé? Vous avez le champ familial dirigé par monsieur, qui produit les céréales. Et vous avez, chaque femme a un lopin de terre à côté du champ familial pour produire ses condiments qu'elle va sécher pour garder pendant la longue saison sèche. Donc, ça fait que traditionnellement, les légumineuses, c'est l'affaire des femmes. Et elles savent y faire, elles ont des connaissances.
Alors justement, on parle de ces connaissances. Nous avons retrouvé notre voisin, un professeur d'agriculture à l'université de Saint-Louis du Sénégal. Bonjour Amadou Ndiaye.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez souhaité nous appeler pour participer à l'émission. Je crois que vous avez un message à faire passer sur la formation des femmes.
En fait, merci. Je voudrais dire d'emblée que la première ressource de l'agriculture, ce n'est ni la terre, ni l'eau, c'est la ressource humaine. C'est pour cela qu'il faut, si on veut remettre la femme à l'intérieur, au milieu, au centre de l'agriculture africaine, il faut commencer par la formation des femmes. Et aujourd'hui, on voit à l'université que les formations qui sont autres, dans les promotions qui arrivent, on a de plus en plus, les femmes s'intéressent à l'agriculture. Les proportions vont de 30 à 40%. Et les meilleures, souvent, c'est les jeunes filles qui sont les meilleures. Maintenant, pour que les femmes puissent accéder vraiment, être au centre de l'agriculture, il faut veiller à la formation, à cette formation professionnelle et ensuite les installer. C'est comme ça qu'ils pourront avoir des compétences qui leur permettent d'agir.
Mais les femmes ont peut-être besoin aussi de formations courtes et pas seulement de titres d'ingénieur agronome, non? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, il y a des formations intermédiaires, niveau fin école primaire, il y a des formations de brevet de technicien, il y a des formations un peu plus élevées au niveau bac technique et il y a d'autres formations au niveau ingénieur. Donc, il y a plusieurs types de formations et aujourd'hui, il faut professionnaliser la femme pour qu'elle puisse accéder à la terre, qu'elle puisse gérer sa machine, qu'elle puisse accéder au financement, c'est la formation.
Et ce que vous nous dites, Amadou, c'est que vous, quand vous avez des femmes, des filles parmi vos élèves, elles sont très bonnes scolairement dans ces formations, elles excellent.
Oui, bien sûr, elles excellent. Je peux dire que depuis 10 ans que je suis dans la formation, à chaque année, les meilleurs, les 5 meilleurs, c'est des femmes. Il y a des hommes, des jeunes garçons qui s'y glissent mais souvent c'est les femmes qui sont les meilleures dans nos fonds, en tout cas qui sortent meilleures dans leurs promotions, ça c'est clair.
Ouais. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Merci en tout cas Amadou Ndiaye de nous avoir appelé de Saint-Louis du Sénégal. On envoie toutes nos amitiés à nos voisins et voisines qui sont sur place. Niakate Gundo Kamisoko, vous avez entendu le professeur. Ça vous a fait plaisir ou pas déjà?
Ça m'a fait plaisir, beaucoup plaisir. Merci d'avoir cette information.
Sur la question de la formation, Niakate Gundo Kamisoko, il y a un manque d'accès des femmes pour mieux comprendre les sols, mieux changer les pratiques aussi en fonction du changement climatique, de toutes les évolutions qui sont de plus en plus complexes.
Oui, c'est vrai parce que les femmes n'ont pas accès à beaucoup de formations, comme vous avez si bien dit. Donc les femmes n'ont jamais été à l'école. Celles qui ont eu la chance, peut-être, ils ont fait l'école primaire. Mais avec les différentes formations, avec des projets qui sont au niveau du Mali, dans les régions, il y a des femmes aussi qui ont eu des formations avec ces différents projets. Et la pratique agricole, et l'environnement, tout ça. Avec ces projets et ces ONG, il y a beaucoup de nos associations qui ont bénéficié des formations.
Takone Ndiaye à l'AFAO, est-ce que l'agriculture, avec cette nécessité de placer les femmes au centre de ces agricultures africaines pour qu'elles se transforment, pour qu'elles soient davantage productives, est-ce que c'est un secteur qui est sous-financé, mal financé par les bailleurs de fonds?
Disons que l'engagement politique en faveur de l'autonomisation des femmes dans l'agriculture, il est très fort. Vous parliez de mécanisation. Je vous dis par exemple que l'Union africaine a lancé en 2015 cette campagne pour reléguer la houe à main au musée. Donc une campagne qui voulait un peu sensibiliser sur la pénibilité du travail agricole, mais aussi la faiblesse des rendements. Et qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une stratégie de mécanisation agricole qui est discutée avec les pays et que nous soutenons en tant que FAO. Donc, au niveau de la FAO, nous mettons beaucoup l'accent sur l'innovation dans l'agriculture à travers des techniques culturales qui soient respectueuses de l'environnement. Mais nous avons aussi une démarche très proche des productrices et producteurs à travers, par exemple, les champs écoles paysans où on forme vraiment sur l'introduction des technologies appropriées au niveau de la base.
Et sur le terrain. Je voudrais qu'on donne la parole parce qu'on approche vraiment de la fin de l'émission à une auditrice qui nous appelle de Kinshasa au 33 7 64 45 51 41. Annie nous appelle de RDC. Bonjour Annie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes chargée d'encadrer des femmes dans le domaine de l'agriculture, je crois.
Oui. Oui,
on vous écoute.
Notre structure se bat, fait le plaidoyer pour que les femmes aient accès à la terre. Les femmes qui sont en agriculture, bien sûr, et celles qui ne le sont pas et qui ont envie d'y entrer. Mais la barrière, c'est l'accès à la terre. Oui, elles ont la terre en location. Et en location, vous ne pouvez pas faire de l'agroforesterie. Alors en agriculture en bas, là, comme je dis, vous ne pouvez pas planter des arbres puisque la terre ne vous appartient pas.
Eh oui, il faut des années. Il faut des années pour avoir des arbres, en effet. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire.
Donc c'est du long terme, il n'y a pas de sécurité.
Oui, vous avez raison. En effet, merci beaucoup Annie de nous avoir appelé pour conclure cette émission. Sayouba Traoré, est-ce que vous avez parlé à un moment donné des nouvelles générations qui aident les mamans, qui ne savent pas lire ni écrire? On a de plus en plus de jeunes filles qui ont achevé leur cycle primaire, voire qui vont au secondaire, hein, voire même parfois qui sont majoritaires au secondaire si on prend le cas du Sénégal. Est-ce que avec les nouvelles générations, il y a quelque chose qui va changer dans la place des femmes dans l'agriculture en Afrique?
Ah ben c'est en train de changer, parce que moi je regarde autour de moi quand je suis en Afrique, les jeunes filles n'ont pas les mêmes réflexes que leur maman. Elles ont besoin de faire quelque chose, elles y vont. Voilà, elles ont internet, elles ont accès à tout, elles ont besoin de rencontrer un bureaucrate, elles y vont. Elles n'ont pas cette charge émotionnelle et psychologique, et tous les blocages... Et comme elles maîtrisent les nouvelles technologies, Elles y vont. Moi, j'ai rencontré beaucoup de... J'ai rencontré, par exemple, on vient de quitter Kinshasa, et j'ai rencontré une jeune fille là-bas qui a fait son élevage d'escargots. Et elle est partie toute seule. Je peux vous citer beaucoup d'exemples où des jeunes filles se sont lancées.
Et qui comprennent qu'il faut effectivement produire, hein, enfin cultiver, mais aussi transformer.
Elles produisent, elles transforment et commercialisent.
Et qu'elles commercialisent. Et en effet, c'est comme ça qu'elles peuvent augmenter un petit peu les bénéfices, parce que c'est dur de cultiver la terre et de tirer des bénéfices de la terre. Merci à vous tous. Merci Tako Ndiaye de la FAO. Merci Niaketegundo Kamisoko de la Fédération des femmes rurales du Mali. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous, Sayouba. Le sujet de votre émission, le coq chante. Tiens, ça sera quoi pour ce dimanche? Je vous pose une colle peut-être, non? Il est en train de s'étrangler avec le masque.
C'est pas une colle, on va voir la forêt.
Ah.
Et comment la forêt stocke de carbone que l'homme jette dans l'atmosphère.
Eh bien, merci. On sera au rendez-vous. Le coq chante, c'est tous les dimanches sur RFI, bien sûr, aussi à retrouver sur Internet. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast. Et demain, eh bien, si on essayait la bienveillance au travail, bonne humeur, bonne relation avec les collègues, est-ce qu'on n'est pas plus productif comme ça? Dites-nous où en est la bienveillance dans votre entreprise. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51. 41. Et pour y réfléchir, allez, une bouffée de bonne ambiance avec Pamela Badjoko. Meka kwanga wengi, meya kwa kubaka ningi, meya taba wele mutolo, yoka mutete. Meka kwanga wengi, meya kwa kubakumba, meya taba tina mutolo, yoka mutete. Aha, hey.
Milliards de voisins, c'est fini.